Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Terribilis est locusiste, hic est domus Dei et porta celli. Que ce lieu est terrible, c'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Ces paroles furent prononcées par le patriarche Jacob. Il se rendait en Mésopotamie et, fatigué, il s'arrêta sur le bord du chemin, dans un lieu qui fut depuis appelé Bethel. Il s'endormit rapidement, et pendant qu'il dormait, Dieu lui fit voir en songe une échelle dressée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Des anges montaient et descendaient sur cette échelle sans cesse. Et Dieu se tenait au sommet, et il promit à Jacob de le combler de ses bénédictions. À son réveil, celui-ci s'écria : Que ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Terribilis est locusiste. Terrible, en effet. Ces paroles s'appliquent davantage à nos églises chrétiennes. Et c'est pourquoi la liturgie de ce jour en a fait ses premières paroles. Ce sont les premières paroles de l'introïte de cette messe de la dédicace, Terribilis est locusiste. Terrible, premièrement, parce qu'une église est un lieu consacré à Dieu, consacré au cours d'une longue et très belle cérémonie, la cérémonie de la dédicace, présidée par un évêque, qui a fait de cette église un lieu retiré, séparé de tout usage profane, un lieu exclusivement, uniquement, réservé au culte de Dieu. Et l'Église a été placée par cette consécration au rang des choses saintes. Elle est devenue la propriété de Dieu, Domus Dei, la maison de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu le sens du sacré, ce sens du sacré qu'avaient nos anciens. Quand on compare les églises que l'on construisait au Moyen-Âge, comme cette église, et celles que l'on construit aujourd'hui, on voit la différence. De plus, le respect des choses de Dieu nous est devenu difficile. La peste de la laïcité est passée par là. Et cependant, Dieu accorde une grande importance au respect des choses saintes. N'a-t-il pas tué net le Lévite Hosa qui avait porté la main sur l'Arche d'Alliance? La loi l'interdisait. Il a été foudroyé. Et lorsque nous lisons le Saint-Évangile, le seul, l'unique acte de violence physique de notre Seigneur, c'est pour chasser les vendeurs du temple. Notre Seigneur se tresse un fouet, il renverse les tables, il met tout le monde dehors. La maison de Dieu n'est pas une maison de négoce. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Dehors. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Le seul acte de violence physique. Terribilis est locusiste. Terrible, oui, mais non pas dans le sens où lorsque nous entrons dans une église, nous devrions y entrer tremblant, craintif, d'une crainte servile. Non, la crainte que nous devons avoir en rentrant dans une église est une crainte révérentielle. Crainte envers la majesté de Dieu. Avoir des sentiments d'humilité, de petitesse. Voilà ce que nous sommes en face de la majesté de Dieu qui réside dans ce lieu. Un sentiment d'anéantissement devant la toute-puissance de Dieu. Un peu comme les enfants de Fatima aux apparitions de l'ange. Ils étaient écrasés par cette présence de Dieu qui passait par l'ange. Et c'est pour ça qu'ils priaient prosternés en terre. Mais ce lieu est encore plus terrible pour une autre raison. C'est ici que se célèbre le saint sacrifice de la messe et que notre Seigneur demeure caché sous le voile des espèces eucharistiques. Et c'est pour cette raison, principalement, que l'Église a été consacrée, pour le saint sacrifice de la messe. Saint Thomas nous donne à ce sujet une très belle raison. Cette Église matérielle, dit-il, est le symbole de la Sainte Église du Christ, de notre Sainte Mère l'Église. Or, notre Seigneur, par sa passion et par sa mort sur la croix, a acquis pour la Sainte Église, pour son épouse mystique, la sanctification, le salut des âmes. Et donc, il convient qu'une Église de pierre soit consacrée en tant que cette consécration est elle-même le symbole de cette sanctification apportée par notre Seigneur, par sa passion et par sa croix. Et quand on a ne serait-ce qu'un peu de foi, on comprend aisément que le lieu habituel où se célèbre le saint sacrifice de la messe doit être un lieu saint entre tous, sanctifié par la prière et les cérémonies de notre mère l'Église. Et c'est cela qui rend ce lieu véritablement terrible. Ici, chaque jour, notre Seigneur s'immole sur l'autel, dans le prolongement du sacrifice de la croix. Nous avons ici, chaque jour, le sacrifice de la croix, au Saint-Autel, le même sacrifice, les mêmes grâces. C'est ça qui rend ce lieu terrible. C'est ici le lieu de la rédemption. C'est ici où sont appliqués les mérites de la rédemption. Notre Seigneur y est prêtre et victime, sacrifice et sacrificateur. Et les mérites infinis de son précieux sang coulent vers nous. Et non seulement il s'offre et se sacrifie dans cette Église, mais il veut encore y demeurer, pour être tout proche de nous. Saint Pierre, Julien et Marc, cette âme qui brûlait d'un amour de feu pour la Sainte Eucharistie, nous dit que l'amour a deux grands ennemis, l'absence et la mort. Et que dans ce cas, en cas d'absence et de mort, il devient alors comme une flamme sans foyer, sans combustible, une flamme qui s'éteint. Notre Seigneur le savait, aussi a-t-il voulu rester au milieu de nous, caché certes, mais réellement là, présent, plein de vie et de grâce, comme il est au ciel. Et comme dit Saint Pierre, Julien et Marc, pour rester insensible à cette présence de Jésus au Saint-Sacrement, il faut avoir soit perdu la foi, ou bien avoir une foi à demi-morte, car ce sont les morts qui ne sentent pas le feu. Si ce lieu est terrible à cause de la majesté de Dieu, il l'est encore et surtout car c'est ici que se manifeste l'insondable amour que Dieu nous porte. Et ce sont les paroles de saint Paul dans son épître aux Éphésiens, « Propter nimiam caritatem, quod illexit nos Deus ». Dieu nous a aimés d'un trop grand amour, d'une trop grande charité, « nimiam caritatem ». Et cet amour que Dieu nous a manifesté sur la croix devrait nous écraser. Ce lieu est vraiment terrible. Troisième raison qui rend ce lieu terrible, moins importante que la deuxième, mais qui en est la conséquence, c'est ici le lieu des miséricordes de Dieu. La consécration de cette Église lui a donné une vertu spéciale, une vertu spirituelle qui la rend apte au culte divin. Dieu donne en effet dans les Églises consacrées un surcroît de dévotion qui n'est pas donné ailleurs pour nous préparer aux divins mystères qui y sont célébrés. Nos prières sont plus faciles, plus facilement écoutées dans une église qu'ailleurs. Domus mea, domus orationis vocabitur. Ma maison sera appelée maison de prière. Et Saint Grégoire le Grand, lorsqu'il commente le passage de l'échelle mystique de Jacob, dit ceci: il n'y a point de temple, point d'église chrétienne qui ne soit une échelle pour monter au ciel. Par le moyen de cette échelle, nos prières montent à Dieu et les miséricordes divines descendent sur les hommes. Une église est un lieu favorisé où nos prières montent vers le ciel et où nous recevons plus facilement les grâces du bon Dieu. Oui, vraiment, terribilis est locus iste, lieu consacré à la majesté de Dieu, lieu où s'offre le sacrifice et où Dieu demeure et habite. Et enfin, lieu où nous pouvons prier plus facilement et recevoir plus facilement sa miséricorde et ses grâces. Cela est bien vrai. Mais il y a des conditions à remplir. Elles découlent de ce qui vient d'être dit. On n'entre pas dans une église sans un minimum d'humilité, de respect, de crainte de Dieu et surtout d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce respect, cette crainte, cette humilité doivent découler de l'amour que nous portons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, rien n'édifie autant qu'une tenue humble dans une église. Car cette humilité doit se traduire dans nos attitudes corporelles. Et une tenue humble édifie vraiment, porte les autres à la prière. Et à contrario, ce sans-gêne que nous voyons chez de nombreux catholiques de l'Église moderne est un scandale permanent qui détourne de notre sainte religion. Monseigneur de Ségur disait à ce sujet des mauvais catholiques qui se tiennent mal dans les églises: il y a des gens qui se tiennent de telle sorte qu'on les prendrait volontiers pour des impies. Volontiers pour des impies. Dieu nous garde d'un tel reproche. Aussi, examinons-nous sur la façon dont nous nous tenons dans une église. Tout d'abord, la façon dont nous prenons l'eau bénite en entrant, celle dont nous faisons notre signe de croix, la façon encore dont nous faisons la génuflexion au centre de cette église. Et là, il y a des choses à redire, surtout chez les enfants. On voit des choses incroyables dans les écoles. Des génuflexions, une main sur le banc, l'autre sur le genou, le dos voûté, le regard de côté qui ne regarde pas notre Seigneur. Où est l'honneur rendu à Dieu? Où est le respect auquel Dieu a droit? Est-ce un acte de révérence envers notre Seigneur? Nullement. Il faut se corriger. Il faut corriger les enfants. Il faut leur donner l'exemple. L'Église est encore un lieu de silence. Silence de bouche, bien entendu, mais silence aussi des gestes. Et là encore, il faut bien éduquer ses enfants. Dernier point, sans doute le plus compliqué, l'habillement. L'Église a donné des règles en cette matière, et nous avons un devoir grave de les suivre. Quelles sont-elles ? Bras couverts, poitrine et jambes aussi. Le Padre Pio était très sévère à ce sujet envers les dames et jeunes filles. Et justement, à une époque où la mode, ou plutôt ceux qui la font, était à raccourcir les jupes. Il demandait aux dames et jeunes filles que leur robe descende 8 pouces en dessous du genou, c'est-à-dire 20 centimètres. Il suffit de mesurer pour se rendre compte de ce que cela veut dire. Et il refusait obstinément de confesser celles qui ne suivaient pas ces règles. Pourquoi alors se pressait-on à son confessionnal? Pourquoi ces files immenses devant le confessionnal du Padre Pio, au risque, après avoir attendu des heures, de se voir refuser sa place parce que la jupe était trop courte? Et d'ailleurs, de quel droit refusait-il? Quel droit avait-il à refuser la confession? Le droit qu'il avait à refuser la confession, c'est le droit de Dieu, un droit divin. Le droit du miracle. Dieu a attesté la parole de son serviteur par un nombre incalculable de miracles. Et quel miracle! Il portait dans sa chair les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sentait dans sa chair continuellement les souffrances de la passion. Combien de malades n'a-t-il pas guéri? Le plus fameux est cette dame qui était née aveugle. Aucune pupille, des yeux tout blancs. Elle ne voyait rien. Il lui a rendu la vue, les pupilles manquaient encore. Et on voit des images. Elle traverse la rue, il n'y a pas de pupille, elle voit parfaitement à droite et à gauche. Combien d'âmes aussi n'a-t-il pas remis en état de grâce, remis dans l'amitié du bon Dieu? Témoin ce communiste qui s'est converti en assistant à la messe du Padre Pio, 3 heures. Une messe qui dure 3 heures. Ce communiste a fondu en larmes. Il a rejoint le padré à la sacristie après la messe. Le padré lui a dit « Si tu savais combien tu m'as coûté !» Il avait offert ses souffrances, il avait souffert pour lui. « Si tu savais combien tu m'as coûté !» Le padré Pio lisait encore dans les consciences, il connaissait le secret des cœurs. Il connaissait l'avenir. Combien de miracles ! Combien de miracles ! Et quand des dames venaient se confesser avec des jupes comme il les demandait, mais qu'elles ne les portaient pas dans leur vie courante, il les rejetait. Il savait, et c'est Dieu qui donnait cette science. Il y a le doigt de Dieu derrière le Padre Pio. Et quand le Padre Pio, quand un tel homme donne des règles et donne des mesures, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Et refuser de lui obéir, c'est refuser d'obéir à Dieu. Notons encore qu'il était aussi très sévère avec les hommes et les messieurs. Il mettait hors de l'église tous ceux qui étaient en short et en bermuda, dehors. Il n'y a pas que les dames chez Padre Pio. Le zèle de Dieu, le zèle de la maison de Dieu. Et à mesure que les modes allaient en se raccourcissant, il devenait de plus en plus sévère. C'est ici une question d'obéissance à la voix de Dieu. Et donc, en conséquence, une question de vie intérieure, de sainteté personnelle, d'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie intérieure est ce qu'est notre obéissance à la voix de Dieu. On ne peut pas séparer les deux, ce n'est pas possible. Comment peut-on prétendre être l'ami de Dieu quand on refuse d'obéir à sa voix ? Aussi, demandons à notre Seigneur qu'il nous touche du fouet de sa grâce, qu'il renverse en nous les tables qui s'opposent à sa volonté. Terribilis est locusiste. Ce lieu est terrible. Oui, mais c'est aussi la porte du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.